Bonjour à tous et merci d'être venus malgré le beau temps, malgré l'heure décente mais matinale quand même. Hier, Pierre Rosanvallon disait qu'il fallait compliquer la démocratie. J'espère que c'est ce qu'on va essayer de faire lors de cette table ronde, puisque nous allons parler de la gouvernance mondiale ou la démocratie mondiale. C'est le titre de la table ronde. Alors pour moi, il y a deux mots importants dans ce titre. Alors le premier, c'est gouvernance. Gouvernance, moi, c'est un mot que j'ai découvert, qui a surgi, je dirais, au début des années 90, donc après la chute du mur de Berlin, d'abord dans la littérature de la Banque mondiale, mais peut-être que vous avez des souvenirs plus anciens. Enfin, moi, franchement, j'ai vu ce mot apparaître à cette drôle d'époque où on commençait à conceptualiser l'arrivée du néolibéralisme, je dirais. Et en fait, le mot gouvernance faisait partie de ces mots un peu attrape-tout, un peu cache-sexe aussi, puisque derrière le mot gouvernance, il y a une idée de pouvoir, hein, il y a une idée de prise de décision. Qui va prendre les décisions dans ce monde qui se globalise? Et il y avait plusieurs mots qui sont arrivés comme ça. Il y a un autre mot, c'est le mot régulation. On parlait avant de règles ou de règlements, et puis tout d'un coup, on a parlé de régulation. Régulation avec cette idée que les choses s'agencent d'elles-mêmes, un peu comme le marché. Eh bien, gouvernance, c'est pareil. Gouvernance, c'est pas gouvernement. Gouvernance, c'est, je dirais, un ensemble d'interactions, d'actions prises par des acteurs très divers, que sont des acteurs étatiques, les États, donc, ou non étatiques, comme les entreprises, les organisations non gouvernementales, les marchés, etc. Le mot a été critiqué et certains ont dit, mais attention, derrière ce mot, en fait, on retrouve ce qu'on retrouve toujours, c'est-à-dire le produit d'un rapport de force entre ces différents acteurs, donc marché, État, organisation non gouvernementale. Alors, à cette époque-là, on avait des grandes idées et on a perdu des grandes occasions. Les grandes idées, c'était, ça y est, la démocratie triomphe enfin. C'est la fin de l'histoire, Fukuyama. L'Europe, on va faire la monnaie unique puis une Europe, enfin, pas puis, on va faire la monnaie unique et une Europe politique. Et force est de constater que 20 ans plus tard, le bilan n'est pas très, n'est pas aussi rose qu'on pouvait l'imaginer à l'époque. En Europe, bon, c'est vrai, on a fait l'euro, mais on n'a pas fait grand-chose d'autre. Elle a plutôt calé, cette Europe, sur le plan politique. Les organisations internationales, on ne les a pas vraiment réformées. On n'a pas fait le rêve qu'avaient ceux qui avaient fondé l'ONU après la guerre. On a fait quelques réformettes. Le G7 est devenu G8, ce genre de choses. Et pour ce qui est de la démocratisation, bon, ça n'a pas régressé, on peut pas dire cela, mais si on regarde le paysage aujourd'hui, quelles sont les grandes puissances? La Chine n'est pas vraiment une grande démocratie. La Russie s'est redressée, mais c'est quand même un régime autoritaire. Les États-Unis, c'est une grande démocratie, mais les États-Unis ont utilisé l'idéal démocratique pour mener des guerres sans grande légitimité. Voilà. Mais on continue à parler de gouvernance et de nécessité de gouvernance. Et c'est vrai qu'il y a une nécessité de gouvernance puisque on se rend compte qu'on a perdu en grande partie la maîtrise de notre destin du fait de la mondialisation. Alors, on est face à une sorte de divorce entre des problèmes qui sont de plus en plus globaux et intégrés. Hein, pensez à l'économie ou à l'environnement, par exemple, la finance, les questions de propriété intellectuelle. Et de ce point de vue, la crise financière actuelle montre qu'on n'a pas réussi à domestiquer et à gérer et à gouverner, je ne sais pas comment on dit gouvernancer, je ne sais pas s'il y a un mot, ces questions. Voilà, donc c'est de toutes ces questions dont on va parler. Alors, le deuxième mot du titre, c'est le mot, j'allais dire, vous attendiez peut-être démocratie, mais non, c'est le mot « ou ». Gouvernance mondiale ou démocratie mondiale, comme s'il y avait une opposition entre les deux. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles pour résoudre cette question de la gouvernance. Bon, il y a ceux qui disent qu'il faut se replier, revenir à des frontières nationales ou européennes. Quelqu'un comme Emmanuel Todd, par exemple, prône un protectionnisme européen. Et puis ensuite, il y a ceux qui se classent dans ces deux écoles, gouvernance mondiale d'un côté et démocratie mondiale de l'autre, je dirais. Gouvernance mondiale, c'est dire, bon, on peut utiliser les institutions existantes, il suffit de les réformer un peu, et on arrivera à faire des choses intéressantes pour réguler cette économie devenue folle. Et l'autre école, démocratie mondiale, qui est un peu plus utopiste, mais pourquoi pas, qui est de dire, on peut inventer de nouveaux mécanismes, des normes transnationales ou supranationales, qui permettront d'avancer, si possible évidemment, en intégrant des éléments démocratiques. Voilà. Alors je vais passer la parole à mes deux invités. Le troisième n'est pas venu, ce qui est dommage puisque Jean-Marie Guénaud est un grand spécialiste des liens entre démocratie et marché. Mais l'avantage, c'est que mes deux invités pourront parler un petit peu plus longtemps que ce que je comptais leur laisser comme temps. Donc à ma gauche, vous avez André Garapon, pardon. Antoine, oh là là, excusez-moi. Antoine Garapon, qui est magistrat, qui a été juge pour enfants, qui s'est intéressé aux questions de mondialisation, puisqu'il a écrit un livre sur la question du juge et de la mondialisation, et qui anime une émission sur France Culture, Le Bien Commun. Voilà. Et à ma droite, Gilles Andréani, qui est conseiller à la Cour des comptes, qui est prof à Paris 2, prof associé à Paris 2. Et qui a été directeur du CAP au Quai d'Orsay, du centre de prévision, non, du centre d'analyse et de prévision. Voilà. Donc, je vais d'abord demander à Gilles de prendre la parole pour nous dire s'il pense que le système actuel de gouvernance interétatique, je dirais assez largement interétatique, peut suffire, si on l'améliore, à aboutir à une meilleure régulation de notre système international.
Merci, merci Pascal. D'abord, j'ai beaucoup de plaisir à être ici. Je voudrais remercier la République des idées et Pierre Rosanvallon. Et aussi beaucoup de plaisir à parler sur ce sujet, pas parce qu'il est facile, je crois que c'est vraiment un sujet très compliqué et peut-être un des principaux défis pour la démocratie, mais simplement parce que c'est stimulant, si vous voulez, de s'obliger à réfléchir et d'avoir l'occasion d'échanger sur un sujet qui met en cause très profondément la démocratie. Je veux dire, les États qui sont le cadre naturel de la démocratie, face à des problèmes qu'ils ne maîtrisent pas ou dont le cadre dépasse évidemment le cadre des compétences étatiques, ça suscite, si vous voulez, des sentiments très profonds, on le voit très bien. Alors des sentiments d'espoir, l'idée que les imperfections des démocraties nationales face à ces problèmes vont être en quelque sorte transcendées par l'instauration d'une gouvernance, d'une démocratie, que sais-je, de mode légitime et efficace de représentation et de décision à l'échelle internationale, l'utopie d'un monde meilleur venu. Si vous voulez, de l'internationalisme, de l'internationalisation des décisions. Mais ça, ce n'est pas le sentiment dominant. Pour l'instant, ce que ça suscite, ce n'est pas de l'espoir. C'est à la fois un sentiment d'impuissance, hein, nos démocraties sont dépassées par l'international, et un sentiment de dépossession. On nous retire notre droit de citoyen de décider pour nous-mêmes. Et ce sentiment peut prendre des tournures extrêmement... de dépossession peut prendre des tournures presque pathologiques, très violentes quelquefois. Je pense à ces milices américaines d'extrême droite qui pensaient que des hélicoptères noirs des Nations Unies circulaient clandestinement pour corrompre la démocratie américaine et s'emparer de son gouvernement. Je pense aux violences qui accompagnent régulièrement les réunions du G8 ou du G20, mais plus prosaïquement d'un sentiment diffus de très grande insatisfaction de cette relation entre le cadre démocratique national et la nature, l'échelle mondiale des problèmes à traiter dans le contexte de la mondialisation, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça et par quoi commencer ? Alors, je vais vous offrir, si vous voulez, 4 ou 5 propositions pour lancer le débat. Elles sont par définition simplifiées, même un peu caricaturales, mais... Je crois qu'il faut essayer de replacer les choses dans en les prenant, si vous voulez, d'une façon un peu analytique. Alors, la première chose à dire, je crois, c'est que il n'y a pas de tentative pour instaurer une démocratie mondiale. Et la démocratie mondiale, c'est même a priori une contradiction dans les termes. Pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, qu'il n'y a pas de démos mondial, et qu'on détient ses droits de citoyen de l'appartenance à un pays. C'est pas plus compliqué que ça, si vous voulez. On n'a pas trouvé aujourd'hui de base pour aller dans la direction d'une démocratie mondiale. En tant qu'homme, on a des droits, c'est l'humanitaire, c'est une espèce de mince pellicule au-dessus des nations, des droits des nations, mais les droits politiques substantiels, concrets, que nous détenons comme citoyens, pour l'essentiel, nous les tenons, et quand je dis pour l'essentiel, c'est que je laisse de côté l'Union européenne pour l'instant, on les détient de son appartenance à un État déterminé. J'irai plus loin, l'international fait historiquement, dans l'histoire des idées, mauvais ménage avec la démocratie. La démocratie se méfie de l'international, la démocratie a une espèce de tendance historique à l'introversion. Disons, ce serait un peu cuistre de citer des auteurs anciens, mais je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler que Platon voulait qu'on fonde les villes le plus loin possible de la mer pour les tenir à distance des étrangers. Il y a aussi une espèce de foi très profonde dans l'idée que si on veut faire de l'action internationale efficace, alors il faut suspendre ou limiter les règles de la démocratie. C'est une pensée qu'on trouve chez Tocqueville, par exemple. La politique étrangère, c'est l'art du long terme, c'est le règne de la raison professionnelle. La démocratie, c'est le court terme et les passions, donc il faut faire une exception pour la politique étrangère et essayer de la soustraire, dans une certaine mesure, à la démocratie. Et d'ailleurs, dans tous les systèmes démocratiques, il y a des exceptions prévues au profit de l'exécutif dans la conduite de la politique étrangère, parce que ce n'est pas simplement l'application de la norme, la politique étrangère, c'est aussi l'exercice de la puissance et des choix arbitraires. En gros, on demande à l'État démocratique d'être un peu schizophrène, d'appliquer des vertus de modération, de soumission à la loi à l'intérieur et vis-à-vis de l'extérieur, au contraire, d'être en position de puissance, de se défendre vis-à-vis des autres, etc. Et donc, la démocratie rencontre dans la conduite des affaires internationales un problème historique. Bon, tout ça pour dire que je crois qu'il n'y a pas d'horizon, si vous voulez, sérieux pour une démocratie mondiale. Je crois qu'on n'est pas du tout sur cette trajectoire-là. Alors, on est, me semble-t-il, et c'est le concept pertinent, c'est l'univers dans lequel il faut essayer d'évoluer pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est mon deuxième point, on est dans un concept qui est celui de la gouvernance, et je dirais pas tellement de la gouvernance mondiale, mais plutôt pour l'instant, ça peut changer, ça peut évoluer, il y a des signes en ce sens d'ailleurs, la gouvernance internationale. Bon, quand on oppose mondial à international, on veut dire une chose précise. Pascal vous a dit la gouvernance, c'est un ensemble assez touffu de normes, d'institutions, de processus qui vous permettent de prendre de la décision dans l'ordre international. Bon. Disons que pour l'instant, et encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, c'est une constatation de fait, ceux qui sont aux commandes, ceux qui fabriquent ces normes, ceux qui occupent ces institutions, qui les dirigent, qui en déterminent l'efficacité et le sort, c'est les États. Alors, ça ne veut pas dire que les États savent ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire que quand je dis que les États sont aux commandes, c'est pas qu'ils s'y retrouvent pas beaucoup plus que le citoyen, si je puis dire, dans cet univers très touffu qu'est la gouvernance mondiale. Mais disons, en gros, sans eux, rien ne peut se faire. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Les États ont créé ces institutions. Ils contrôlent plus ou moins ces normes, on peut en discuter, mais enfin, en gros, les plus importantes d'entre elles supposent leur accord. Et les États, si vous voulez, ont mis en place cet ensemble un peu touffu qui est la gouvernance mondiale. Alors, il il faut aller, je crois, un peu plus loin, se demander qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui se passe du point de vue des États dans cette affaire. Bon, traditionnellement, il y a deux représentations de l'État dans la vie internationale. La première, c'est l'État qui cherche à maximiser sa puissance dans un univers anarchique. C'est la vision réaliste des relations internationales, si vous voulez. Et puis, il y a l'État qui cherche, malgré tout, à coopérer avec ses congénères, avec les autres États, et à produire des réponses aux problèmes communs. Dans le premier cas, on parlera d'une société anarchique, d'État de nature. Dans le deuxième cas, d'une société internationale. Les États se socialisent et réussissent quand même à travailler un peu ensemble. Bon, le point que je voudrais faire ici, c'est que la gouvernance mondiale, c'est ce deuxième aspect, c'est ce deuxième visage des États dans la société, dans la vie internationale. Les États, non seulement fauteurs de guerre et compétiteurs, mais qui quand même coopèrent un peu, se sentent unis par des liens sociaux. C'est ça qui produit la possibilité d'une gouvernance internationale. Alors, j'adhère tout à fait à ce qu'a dit Pascal, on n'est pas dans une situation très satisfaisante, mais je voudrais quand même vous faire observer que depuis la fin de la guerre froide, on est dans une situation historiquement plutôt favorable. C'est-à-dire que par rapport aux époques antérieures, on a une conjonction qui fait quand même que ce deuxième aspect de la vie des États, ce deuxième aspect de leur rôle international se développe. Il se développe plus qu'il s'est développé dans le passé. On crée des institutions, on renforce celles qui existent. On a créé l'Organisation mondiale du commerce, on a rénové, si je puis dire, et permis au Conseil de sécurité de fonctionner normalement après la fin de la guerre froide. Et en gros, les États sont un peu plus des animaux sociaux, un peu moins des rivaux en état de rivalité et de compétition guerrière que ça n'était le cas avant. Donc on est plutôt dans une phase où la gouvernance internationale s'est renforcée. Le rôle du Conseil de sécurité, on peut citer aussi le développement, l'élargissement même de l'Union européenne. Bon, ça ne change pas les données fondamentales du problème telles que j'ai essayé de les décrire tout à l'heure, c'est que les États restent en gros maîtres du jeu. Les budgets, les compétences, les décisions, sauf exception de cet ensemble d'organisations et de processus formels ou informels, sont plus ou moins sous le contrôle des États. Et en tout cas, ça ne peut rien donner de très sérieux si les États s'y opposent. Alors, on voit très bien, quand on a dit ça, qu'on soulève un problème qui est le cœur du problème de la gouvernance mondiale. C'est-à-dire que si les États sont les maîtres, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire ? Est-ce qu'ils vont essayer de poursuivre uniquement leur intérêt ou bien est-ce qu'ils vont essayer d'agir d'une façon coopérative ? Et là, je crois qu'il y a une difficulté qui oppose une fois de plus l'univers international à la démocratie, c'est que qui parle pour le bien commun pour reprendre le titre de l'émission d'Antoine, qui parle pour le bien commun dans cet univers? On voit bien que c'est un défi, et c'est un défi en particulier pour la pensée libérale qui croit plus ou moins que de la confrontation des intérêts individuels jaillit une forme d'optimum collectif ou l'intérêt général. Or, ce n'est pas le cas dans la vie internationale. Il faut bien que quelqu'un dans le système parle pour l'intérêt général et représente un peu l'expression du bien commun. Alors, ça se fait, si vous voulez. Vous avez des capacités de faire ça dans le système international. Les organisations internationales sont supposées faire ça. Mais c'est toujours en tension avec les États, et d'une certaine façon, c'est là que je voulais en venir, toujours un peu en tension avec la démocratie. Juste un exemple qui est récent. Vous avez le ministre français de l'Agriculture va au Conseil agricole. Il en revient en disant « j'ai obtenu des quotas supplémentaires de poissons pour les pêcheurs français ». Bon, il défend l'intérêt national il se fait l'expression du sentiment démocratique, en tout cas celui qui influence sur le moment sa prise de décision, qui est de défendre les pêcheurs. Il faut bien qu'en face, il y ait quelqu'un qui parle pour le bien commun, et le bien commun à l'échelle globale n'est pas celui qu'il est à l'échelle française. Il est de protéger la ressource halieutique, et donc d'empêcher les pêcheurs de chacun des pays concernés d'épuiser la ressource. Dans le système européen, il y a quelqu'un qui exprime ce point de vue, c'est la Commission. Et vous voyez bien qu'il y a une tension inhérente dans le fait que la Commission exprime le bien commun, je crois qu'on peut le dire de ce point de vue, mais elle l'exprime en quelque sorte contre les sentiments démocratiques, d'une certaine façon contre la démocratie de chacun des pays concernés. Donc c'est une tension qui est inhérente à la gouvernance internationale et disons, il faut l'assumer. Mais c'est comme ça. Il faut surtout, je crois, quand on critique la gouvernance internationale et les organisations internationales, se rendre compte et accepter que les États ont, à la fin des fins, le dernier mot. C'est eux qui décident, si vous voulez. Et donc, c'est très difficile de les incriminer, si on est honnête, d'incriminer ces institutions, excusez-moi, spécialement au nom de la démocratie, alors même que c'est les États qui sont pour l'essentiel responsables de ce qui se fait ou de ce qui ne fait pas dans le cadre de la gouvernance internationale. Bon. Alors, troisième point, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut montrer en termes de gouvernance internationale et qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Là, je crois qu'il y a une dichotomie très profonde et c'est entre les modes de faire, les institutions en cause dans le domaine, disons, de la politique au sens le plus classique du terme, de la politique de puissance, de la sécurité, de la guerre et de la paix, et de l'économie. On a deux systèmes de gouvernance parallèles plutôt qu'un système intégré. Alors, le système de gouvernance politique, c'est quoi? Une espèce de combinaison de situations de fait et d'institutions, mais on s'y retrouve un peu. On s'y retrouve un peu parce que vous avez en gros deux piliers principaux pour la gouvernance politique internationale et puis des piliers subsidiaires. Deux piliers principaux qui sont l'Organisation des Nations Unies et le Conseil de sécurité qui, malgré tout, représente une certaine forme de gouvernance unifiée et une potentialité de gouvernance à l'échelle mondiale sur les questions de paix, de sécurité et de politique au sens le plus classique du terme. Il y a un cadre institutionnel et il y a une deuxième composante, bon, qui sont le mélange de coopération et de compétition entre les principales puissances, ce qu'on appelle le concert, si vous voulez, qui est une des plus vieilles composantes de la gouvernance internationale, le concert européen, qui fait bon, que les principales puissances se réunissent et tentent, plus ou moins par consensus, de régler les affaires. Bon, simplement, depuis la fin de la guerre froide, il y a une particularité, c'est qu'au sein de ces puissances, il y en a une qui n'est pas dans la même position que les autres et qui est dans une relation très singulière en termes de puissance avec le système international, c'est les États-Unis. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a une domination au moins politique aussi nette du système international par un acteur. Donc je réserverai un rôle particulier pour les États-Unis dans la gouvernance mondiale. C'est-à-dire que si en gros rien ne se fait sans les États en règle générale en matière de gouvernance internationale, on peut dire qu'en matière de paix, de sécurité, de traitement des problèmes politiques internationaux au sens le plus classique du terme, rien ne se fait sans les États-Unis, en tout cas rien ne se fait contre eux. Et donc ça leur confère un rôle très particulier qui n'est pas facile à assumer ni pour eux ni pour les autres. Voilà. Et ça fait c'est une des particularités du système. C'est plus ou moins comme ça que fonctionne la gouvernance internationale aujourd'hui, avec tous les écarts et quand même quelques progrès. Les écarts, c'est que bien sûr le système est trop dépendant des États-Unis, Pascal vient de le rappeler, les États-Unis sont à la fois dans un rôle de garant du système international, mais aussi ils le subvertissent, ils refusent de se plier à ses règles, donc c'est une vraie difficulté. Le concert, il est fragile, hein, il est sujet à critique de la part de ceux qui n'en font pas partie. La gouvernance internationale, pour être efficace jusqu'à un certain point, il ne faut pas qu'elle soit trop démocratique. Et nous, Français, on n'a pas vraiment beaucoup d'état d'âme à dire on est membre du Conseil de sécurité, on est parmi les pays qui comptent. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne sont pas dans la liste? C'est un problème de légitimité quand même tout à fait fondamental. Et puis l'ONU, elle fait quelques progrès, si vous voulez. Les opérations de maintien de la paix, ça marche un peu mieux. Comme médiateur dans les conflits, grâce au fait qu'il n'y a plus de tensions structurelles entre les grande puissance au sein du Conseil de sécurité comme au temps de la guerre froide, ça progresse un peu. Et puis, vous voyez quand même des pays comme la Chine, l'Inde, qui en quelque sorte aspirent plutôt que de subvertir le système de l'extérieur, elles aspirent aussi à y rentrer, à en devenir des agents actifs au rang qui est le leur, bien sûr. Ils ont, la vie internationale reste une vie hiérarchique, donc au rang qu'ils imaginent devoir être le leur, qui est le plus élevé. Mais quand même, en matière de gouvernance politique, il y a des éléments, et surtout des éléments unifiés. On situe à peu près le système. Et enfin, ce système international politique à l'échelle globale est complété par des systèmes régionaux, très inégaux dans leur capacité de prendre des décisions et d'agir. L'Union européenne se situera à part de ce point de vue-là, mais vous voyez, en Asie, des cadres de coopération sur la sécurité se développer progressivement. Afrique, beaucoup moins. Il faut dire que c'est tout à fait embryonnaire. Ce n'est pas parce qu'on a transformé l'OUA en Union africaine qu'elle fonctionne mieux. Et vous avez quelques éléments de coopération très, très limités dans d'autres régions du monde. Ils se sont beaucoup renforcés en Amérique du Sud, par exemple. Vous voyez, disons, l'Amérique latine prendre en charge davantage de ces problèmes de gouvernance. Alors, sur le plan économique, c'est un autre univers. On est dans un univers qui est beaucoup plus fragmenté, où en gros, vous avez un certain nombre de segments de l'activité économique qui font l'objet d'un ensemble de règles spécifiques, ce que dans le jargon de la science politique, on appelle des régimes. Il y a des régimes applicables à la santé, à l'environnement, au réchauffement climatique, à ceci, à cela. Un ensemble très disparate de régimes, la finance, le commerce, avec le plus souvent une institution phare dans ce domaine, si vous voulez, l'OMS pour la santé, le FMI et la Banque mondiale pour la finance, mais parfois plus d'une institution, et donc un système de gouvernance très, très éclaté. C'est aussi le domaine où les États n'ont pas le monopole de la décision. Un grand nombre de normes de l'activité économique internationale sont décidées dans une espèce de zone grise où vous avez parfois des organismes parfaitement privés, comme l'ICANN, l'organisme qui assigne les noms de domaine d'Internet, qui est le pivot de la régulation internationale d'Internet. C'est un organisme privé, les États n'ont pas de contrôle dessus. Et donc, entre ce type d'organisme et les activités internationales au sens strict, vous avez toute une zone grise de normes et d'organismes de régulation qui se développent de façon infrapolitique, ou en tout cas d'une façon où la délibération politique et le contrôle des États n'est pas apparent. Donc un système beaucoup plus fragmenté. Il n'y a pas l'équivalent du Conseil de sécurité pour, disons, faire ce que ferait un gouvernement à l'échelle nationale, c'est-à-dire unifier ces différents outils et ces différents régimes dans une politique. Au sens le plus large, une politique de où il y a une vision générale en surplomb des différents leviers qu'on manipule. La seule chose qui ressemble à ça, c'est le G8 et le G20 récemment créés. Disons, ils ont montré une certaine capacité à réagir au moment de la crise, mais c'est des organisations très imparfaites et dont la liaison avec chacune des organisations et chacun des régimes considérés individuellement est très très imparfaite. Et j'ajoute que ces régimes et ces organisations travaillent assez mal les uns avec les autres. C'est très difficile d'intégrer des problèmes d'environnement dans le commerce, des problèmes sociaux dans l'environnement, et ainsi de suite. On voit qu'il y a une très grande difficulté à intégrer tout ça dans une vision globale de la gouvernance économique. Donc on a une gouvernance économique qui est beaucoup moins institutionnalisée, en tout cas institutionnalisée de façon beaucoup moins unifiée et de beaucoup moins satisfaisante du point de vue de la délibération politique globale, si vous voulez. Alors, il y a des propositions, créer un Conseil de sécurité économique pour compenser ce type, ces problèmes, on pourra en discuter. Moi, je pense que ça ne verra pas le jour et que ça ne serait pas très utile. Mais le fait est là. Donc, c'est dans ce domaine que se développent, je crois, le plus les incertitudes et les appréhensions dont j'ai parlé à propos de la gouvernance, à propos de la gouvernance internationale. Bon, ayant dit cela, baroque, le système est baroque, mais il n'en produit pas moins ses résultats. Et les résultats, c'est en gros qu'il a présidé au développement des échanges économiques internationaux, pas seulement des échanges de biens, mais de services et financiers, de façon tout à fait incroyable, si vous voulez. La performance de ce point de vue, en termes de maintien des échanges, développement des échanges et maintien des échanges en période de stress, c'est une performance qui, disons, est historiquement, en tout cas, bien meilleur que les prédécesseurs, de ces organisations ne l'ont fait pendant la crise de 1929 où à la fois la convertibilité des monnaies et le commerce international se sont arrêtés sous l'effet de la crise. Donc aujourd'hui, en gros, ils continuent. Alors, dernier point, parce qu'il faut, c'est déjà trop long pour une introduction. Dernier point, je dirais, où se situe la démocratie dans tout ça ? Et je voudrais juste faire une proposition, essentiellement pour faire réagir, je ne suis pas sûr que tout le monde va y adhérer, c'est qu'en gros, la gouvernance internationale, elle s'est construite, ce n'est pas des étapes pour le développement d'une démocratie mondiale. Ça s'est construit dans un univers où conceptuellement, ce n'est pas l'objectif, si vous voulez. L'objectif, c'est de répondre à des problèmes immédiats, problèmes de santé internationale, problèmes d'environnement, problèmes de commerce, etc. Mais quand même, en gros, dans ce système, la démocratie tente à progresser. Au cours des 10-20 dernières années, la démocratie y a un peu progressé. Il y a progressé parce qu'il y a plus de démocratie, il y a davantage de démocratie, d'une part, et qu'au fond, on voit dans les démocraties une pression publique pour que les modes de faire et les habitudes de la démocratie nationale infusent progressivement l'univers international. Il y a une revendication démocratique qui s'étend de la démocratie nationale à la pratique de la vie internationale. Et ça détermine des choses comme, si vous voulez, une plus grande transparence, une plus grande responsabilité, non pas au sens politique, mais au sens américain ou anglais de accountability, il faut rendre des comptes. Et les organisations internationales, les systèmes de décision internationaux, sont en quelque sorte interpellés par les démocraties nationales qui leur demandent de rendre des comptes, de s'expliquer de ce qu'ils font. Et la transparence et une certaine forme de responsabilité y progressent. Donc je crois que c'est de ce point de vue, c'est un progrès. Et on l'a vu par exemple dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, le contrôle sur la Commission, la transparence, l'explication des processus a progressé. Mais ce n'est pas... si vous voulez, c'est un phénomène qui a son revers, le progrès de l'esprit démocratique dans la vie internationale. Et je voudrais juste mentionner un élément de ce revers qui est le suivant. L'esprit démocratique dans la vie politique, ce n'est pas simplement le souci du bien commun, de la représentation de tous. C'est, comme le disait Tocqueville, c'est la passion de l'égalité. L'égalité est au cœur de la revendication démocratique. Et vous voyez bien que ce qui, pour nous, dans les démocraties développées, s'identifie au progrès de la démocratie dans les vies internationales, c'est-à-dire le fait qu'on relativise la souveraineté, qu'on a une vue plus globale des problèmes, qu'on essaye d'instaurer des éléments d'efficacité et de justice sur le plan international au détriment même de la souveraineté des États, ça heurte l'esprit démocratique dans la vie internationale au sens le plus tocquevillien, c'est-à-dire au sens du sentiment d'égalité. La Charte des Nations Unies proclame l'égalité souveraine des États. Ça veut dire le droit égal de chacun à être chez soi et à ne pas voir sa démocratie, ou si ce n'est pas une démocratie, sa vie nationale, perturbée par des décisions prises ailleurs. La revendication d'égalité souveraine, si vous voulez, c'est une des faces de la démocratie qui, dans la vie internationale, est très active, très vivante. On voit la puissance de la revendication d'indépendance et d'autonomie souveraine, spécialement de la part des jeunes États, des États qui arrivent aujourd'hui, si vous voulez, dans la vie internationale les plus récemment créés. Et ça, si vous voulez, il y a une relation de tension avec un autre élément de la démocratie qui est l'universalisme. L'idée que les valeurs démocratiques doivent être les mêmes partout, qu'elles doivent se traduire par des érosions aux besoins ou des infractions à la souveraineté, à l'indépendance des États, quand des grands principes démocratiques sont en cause ici ou là. Et on voit qu'il y a donc une tension au sein même de ce progrès de la démocratie à l'échelle mondiale, entre une démocratie universalisante qui proclame, si vous voulez, que pour le bien commun universel, il faut... en tout cas essayer sinon supprimer la souveraineté, en tout cas y faire des infractions et l'éroder, et puis les États, tous les États animés par la passion démocratique de l'égalité qui disent pas chez moi, je ne veux pas qu'on décide pour moi. Et donc c'est une C'est une tension sur laquelle je ne peux que vous laisser, parce que je n'ai pas la solution, mais qui, à mon avis, fait que le progrès de la démocratie dans la vie internationale, si limité soit-il, est en lui-même la source d'une tension et pas simplement une espèce de progrès unilatéral indéfini d'un mouvement univoque. Alors, j'arrête là, parce que je crois qu'il faut arrêter sur les
Merci.
Questions, en vous remerciant d'avoir été patient.
Merci. Alors, je retiens que la démocratie a progressé dans la gouvernance internationale. Je résume assez abruptement. Mais alors, si c'est vrai, il y a un vrai énorme divorce entre cette évolution que vous décrivez et la perception des citoyens, puisque les gens perçoivent plutôt plus d'opacité, moins de responsabilité, donc plus d'irresponsabilité, moins de participation à la conduite des affaires en général. Mais je me tourne vers Antoine Garapon pour lui demander qui parle pour le bien commun aujourd'hui, puisqu'il connaît bien cette question, et s'il peut revenir sur ce qu'a décrit Gilles Andréani, cette zone grise de gouvernance. Est-ce qu'on est condamné à avoir une gouvernance qui se déroule dans une zone grise avec des décisions informelles, peu lisibles, ou est-ce qu'on peut imaginer une institutionnalisation plus forte de la production de normes internationales?
Oui, merci beaucoup. 20 minutes?
Un quart d'heure.
Un quart d'heure, très bien. Non, je voudrais prendre le contre-pied de ce que vient de dire mon ami Gilles Andréani, un peu pour le bonheur du débat. Parce que je crois, moi, que précisément ce qui a changé, c'est que les États n'ont pas le dernier mot. Et donc, c'est bien le problème. C'est bien le problème, et par certains côtés, d'ailleurs, je le regrette. Et c'est plus un constat de fait plutôt qu'un vœu ou qu'une sorte de réjouissance de voir enfin l'État disparaître. Non, je crois qu'aujourd'hui, précisément, les États ne maîtrisent plus un certain nombre de choses. Et je pourrais donner quelques exemples. Je vais m'en limiter à trois ou quatre. Quand je vois, par exemple, ce qui s'est passé pour les normes comptables, qui est d'une importance capitale pour l'économie. Je vais essayer de me centrer sur le financier parce que c'est notre actualité. Ouais. Eh bien, la France fait ses normes, l'Europe fait ses normes, propose des normes pensées, articulées avec une certaine conception d'entreprise. Elles sont balayées par un club de comptables anglais qui réussissent à imposer leur vision et finalement imposer les normes comptables aux entreprises. Pourquoi ? Parce que si elles veulent être cotées à New York, eh bien, il faut se plier à cette nouvelle règle. Je fais très, très rapide, mais ce que je veux dire... Prenons autre exemple, l'arbitrage. L'arbitrage est une forme de justice privée, et lorsque un pays investit, par exemple comme en Argentine, on dit « j'investis chez vous, mais à une condition ». C'est que vous ne changiez pas votre législation sociale, parce que vous changez la règle du jeu. Donc, si j'investis en Argentine ou en Roumanie, je bloque toute évolution, moi investisseur, de la législation sociale, parce que si on change la législation sociale, je dis « attendez, vous changez la règle du jeu, vous payez ». Maintenant, arbitrage. Pourquoi ? Et mon hypothèse, je force bien sûr le trait pour le bonheur du débat. Je pense qu'au contraire, aujourd'hui, je suis tout à fait Gilles lorsqu'il dit que nous avons deux systèmes de gouvernance, un système ancien qui continue de fonctionner pour les questions de sécurité, de nucléaire, de maintien de la paix, etc., et qui fonctionne pas si mal que ça aujourd'hui, quoi, qui n'est pas tant affecté que cela. Mais en revanche, à côté, il y a un nouveau système qui est beaucoup plus qu'une zone grise, qui est une nouvelle organisation du monde. Comment fonctionne-t-elle ? Eh bien, elle fonctionne précisément à des nouveaux paradigmes. La liquidité du marché, son unification quasi totale au niveau global, change la forme de pouvoir. C'est-à-dire que l'État reste ce que décrit Gilles, à condition qu'il renonce à attirer les investissements, qu'il renonce à voyager, qu'il renonce à ce que ses ressortissants voyagent. Alors là, bien sûr, ça marchera. Mais il ne va pas survivre très longtemps. Dès qu'il veut rentrer dans ce grand jeu, ou son grand marché mondial, il est obligé d'accepter des règles auxquelles il n'a pas été associé. Donc c'est un système, les formes de pouvoir ont changé, c'est plus la puissance combien de divisions, c'est le paradigme de l'influence. C'est-à-dire, bon ben, faites ce que vous voulez, mais si vous n'êtes pas attractif, je ne viendrai pas mettre de l'argent chez vous. Et ça change tout. Et donc ça veut dire que le pouvoir est moins un pouvoir direct sur les choses qu'une manière d'influencer en amont, très en amont, les représentations du monde qu'on s'en fait. Et quand je dis représentation du monde, c'est aussi la représentation comptable, ce sont les règles du jeu. Donc il me semble que c'est un changement profond, et malheureusement pour lequel on ne peut pas, ce qui a été pensé dans le système interétatique, ne peut pas être exaucé au niveau global. Pourquoi ? Parce que précisément, il n'y a pas de correspondance entre eux, et s'agit de l'a très bien dit pour la pêche, mais on pourrait donner mille autres exemples. C'est-à-dire que un État doit choisir, lorsque tous les États, à commencer par les États-Unis, lorsqu'ils prennent une décision politique, est-ce qu'ils vont privilégier l'intérêt des États-Unis ou le leur, ou l'intérêt du bien commun mondial ? Et la réponse est dans la question. Ils vont bien sûr, par nécessité, privilégier leur intérêt à eux. Donc il y a mille exemples de cela, et je crois que précisément aujourd'hui ce qui a changé, c'est que nous avons un monde qui est gouverné, parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a un vide normatif. Il y a beaucoup beaucoup de normes, et c'est très frappant d'ailleurs, ce monde qui coexiste et qui s'affirme de plus en plus face au monde ancien, au monde westphalien, au monde de la puissance interétatique, il est très normé, mais il est normé par des normes qui ont une physionomie très particulière et qui répondent au modèle de l'influence que je viens de dire à l'instant. Ça veut dire quoi, le monde de l'influence ? Ça veut dire que les normes sont faites par des clubs, par des petites communautés sectorielles qui tiennent, alors, Internet, la finance, les règles comptables, la prudence bancaire avec les règles de Bâle, etc., etc. On va essayer de rentrer rapidement. Et le point que je voudrais défendre, mon argument, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, la difficulté, ce n'est pas de faire des normes. On a plein de normes. C'est que ces normes fassent institution, c'est-à-dire qu'elles contribuent à créer une institution, ou des institutions plus exactement, ce qu'elles ne font pas. Si vous voulez, la règle de droit, elle a deux fonctions. Elle a une fonction opératoire, mettre fin au conflit, permettre de mettre en forme l'action collective, et elle a aussi une fonction de signification, c'est-à-dire de rappeler des valeurs, si vous voulez, et de rapatrier l'activité humaine derrière un certain nombre de principes. Alors, ce qui se passe dans la mondialisation, c'est qu'on a une dissociation de ces deux fonctions. On a des normes opératoires, qui fonctionnent pas si mal que ça, encore qu'elles provoquent des crises, mais elles ne sont pas du tout démocratiques. Alors, pourquoi ? Tout d'abord, elles sont le seul critère de ces normes, c'est le critère de l'efficacité. Est-ce que ça marche ? Et on arrive à ce paradoxe qui est énoncé par pas mal d'ailleurs aujourd'hui d'observateurs, de dire on a dans la mondialisation, ce qui est efficace n'est pas légitime, c'est des normes comptables. Aucune légitimité démocratique, mais ça marche très bien, de toute façon c'est imposé, on ne peut pas faire autrement. Et puis ce qui a été décidé après, de manière très légitime, par les inspecteurs des finances français, par etc., ça ne marche pas, c'est très légitime, mais ce n'est pas efficace. Il y a le spectre, dès qu'une normalisation veut se faire un peu, veut porter plus de choses que l'efficacité, et on dénonce tout de suite, c'est un machin, c'est de la surrégulation, etc. Donc, et d'ailleurs, c'est particulièrement vrai des législations européennes, qui sont des législations au résultat, à l'efficacité, au fonctionnement, qui ne portent aucune valeur. C'est bien ce qui est préoccupant, d'ailleurs. On pourra l'expliquer. Donc, cette efficacité, c'est plutôt une idéologie, d'ailleurs, de l'efficacité, dans laquelle on va survaloriser la compétence. On veut des gens compétents, et c'est pour ça que ça a marché, d'ailleurs, les normes anglaises, parce que c'était des comptables. Les comptables ont dit, attendez, oui, les gens à Bruxelles, tout ça, les Français, les inspecteurs des finances, c'est des gens qui ne connaissent pas le business. Nous, on connaît le business, on va vous proposer quelque chose qui marche. Alors, ce sont des normes qui sont très... on pourrait dire très spéculaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexivité. Ce qu'il faut, c'est que que le business continue. Et donc, on a l'apparition de tas de mécanismes, je ne veux pas rentrer, c'est trop. Mais disons que on cherche une sorte de régulation automatique, que ça marche tout seul. Quand je dis que ça marche tout seul, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des comités de la supervision ou de l'évaluation. Non, ça veut dire qu'on se passe du moment politique de l'institution, du moment dans lequel on va rapatrier un retour d'expérience, on va réunir toutes les personnes qui sont parties prenantes à une activité pour que on suspende, c'est ça la justice, c'est ça une institution, on suspend le temps, on suspend l'enchaînement des causes et des effets pour faire le point. Ça n'arrive jamais dans les normes internationales parce que le temps, c'est de l'argent et donc il faut que tout continue, on est dans le court-termisme. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de retour et que les désastres que cause l'activité économique, et surtout quand elle s'effondre comme maintenant, eh bien, il n'ait pas été réintroduit de manière permanente, ce que font les assemblées politiques. Et entre parenthèses, d'ailleurs, les intellos ne font pas leur travail parce que, oui, ils le font, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune visibilité, aucune problématisation de ces normes qui sont incroyablement importantes, mais qui ne sont pas enseignées dans les facs de droit, qui ne sont pas analysées par les sociologues, qui ne sont pas décrites par les journalistes. Pourquoi ? Parce que, justement, ça marche tout seul et elles se nourrissent de leur propre invisibilité. Autre idée qu'elles poursuivent et qui est, à mon avis, une fausse idée, ce sont des normes procédurales. L'idée, c'est de se dire, bon, c'est très compliqué, et c'est effectivement très compliqué, la mondialisation financière. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre des procédures loyales qui vont être claires, transparentes, avec ce postulat qui s'avère faux, que les procédures vont produire elles-mêmes un résultat juste. C'est le cœur du procéduralisme. C'est-à-dire que on met des comités d'experts contrôlés, des murailles de Chine, des tas de choses, bon, et puis on fait des constructions procédurales, bon, et finalement ça donne ce qu'on voit. Pourquoi ? Parce que à aucun moment il n'y a de considération pour le tout du monde. J'entends par le tout du monde, c'est-à-dire précisément ce qui excède l'activité financière, l'activité économique, et qui fait lien avec ce dont nous a parlé Gilles Andréani. Alors, cette fragmentation des problèmes, cette manière de diviser à l'infini les problèmes, fait qu'on arrive à faire des régulations micro à court terme, et elles donnent des catastrophes macro à long terme. Et dans ce passage, il y a une boîte noire qu'on ne comprend pas, et qui va être redoublée d'ailleurs par quelque chose que... C'est-à-dire que quand on fréquente les avocats, les business lawyers ou les businessmen anglo-saxons qui tiennent pour l'instant qui mènent la danse, ils ont ce raisonnement de se dire « mon éthique personnelle est irréprochable », c'est souvent vrai. Je suis absolument clair avec les règles du jeu que je respecte scrupuleusement, et c'est souvent vrai. Et puisque je réunis ces deux conditions, ce que je fais est nécessairement vertueux. Eh bien non, il n'y a pas cette transférabilité qui est le postulat implicite de dire si on est des bons protestants, pour faire court, eh bien, on fait du bon business et c'est profitable pour le monde. L'expérience actuelle montre l'échec du postulat libéral qui croit que le bon agencement des égoïsmes va produire du bonheur collectif et du bien commun. Et donc, je crois que ça devrait nous faire réfléchir. Alors, respecter le temps qui m'est...
Pour respecter le temps
qui m'est imparti et pour ne pas être trop long. Il y a un problème qui est l'absence et ce qui empêche que pour l'instant on puisse avoir une régulation qui soit véritablement démocratique au niveau mondial. C'est que tout cela procède d'une même représentation du monde, du marché, du droit, du politique et de la vertu et de l'éthique, en raison de ce paradigme de l'influence dont je parlais au départ. Et il n'y a pas de confrontation, de représentation du monde. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que nous autres Français, nous ne partageons pas pour beaucoup et pour nombre de ces dogmes. Ce n'est pas notre culture et on a l'impression d'être sous la pompe, passez-moi l'expression. Alors, ça veut dire que il est très important aujourd'hui de trouver des institutions qui fassent institution, c'est-à-dire qui permettent ce que j'ai dit, la réflexivité, et donc qui permettent la confrontation de plusieurs représentations du monde, de plusieurs représentations du bien commun, de plusieurs statuts du marché. Nous ne pensons pas, contrairement à la pensée dominante, que le marché soit le meilleur organisateur de la coexistence humaine. Nous ne pensons pas que l'enrichissement que l'homme puisse être réduit à son intérêt. Nous pensons qu'il est aussi travaillé par des aspirations au bien et à une socialisation différente. Alors ça veut dire que si on veut des régulateurs qui soient de véritables tiers impartiaux, ils doivent être au-dessus, dégagés d'une représentation du monde particulière qui est le cœur du paradigme de l'influence qui organise la normalité, la normalisation dont je viens de parler. C'est-à-dire qu'il faut notamment, et j'ai été très intéressé par la table ronde d'hier, parce que précisément, il faut des tiers qui soient, des régulateurs qui n'épousent pas spontanément et souvent à leur corps défendant, à leur conscience défendante, ils n'en ont pas conscience eux-mêmes, qui n'épousent pas cette confiance, cette vision du monde, cette vision du marché, cette vision de l'homme, et donc qui puissent essayer de comprendre ce qui ne marche pas, ce qui dysfonctionne dans le marché lui-même et pas dans l'éthique de ses opérateurs. Voilà, donc je crois que il faut créer des instances qui permettent cette pluralité de vision, qui permettent que toutes les parties prenantes aient leur mot à dire.
Est-ce qu'il faut les créer?
Je ne crois pas beaucoup aux créations volontaires parce que tout le problème de là, c'est qu'on n'arrête pas de déclarer et de créer des instances, mais oui, qui ne marchent pas. Voilà. Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs solutions et on peut rentrer dans le détail, mais on peut devenir rapidement technique. Étant juge moi-même, je m'intéresse particulièrement à la responsabilité sociale des entreprises et à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire comment des entreprises peuvent être prises dans des filets d'une accusation ou d'un procès civil et que ce procès puisse être préfiguré cette scène d'explication collective globale. On peut donner plusieurs exemples. Je pense à l'affaire Nike, par exemple, aux États-Unis. Je pense à d'autres affaires qui sont en train d'ailleurs de... Et je crois qu'il ne suffit pas d'avoir de penser la démocratisation du monde un peu à la française comme une régulation, c'est-à-dire un système d'autorisation préalable de législation mondiale, il faut aussi le penser comme une forme de responsabilisation pour les acteurs. Vous intervenez sur les marchés, vous répandez des produits, vous faites commerce de produits sur la terre, ok, vous en répondez également devant les consommateurs, devant les gens qui les ont produits et qui peuvent vous demander des comptes.
Oui, mais quand vous parliez d'institutionnalisation qui permettrait aux différentes représentations du monde de s'exprimer et de confronter leur point de vue. Est-ce que c'est des institutions à créer ou est-ce qu'on peut se reposer sur les institutions existantes et les transformer?
Il faut, si vous voulez, il faut que pour l'instant, on a des tigres de papier. Il y a une bouche de la loi globale qui n'a pas beaucoup de dents, comme disait, pour prendre une métaphore américaine, et qui ne mord pas beaucoup. Moi, je crois à un droit qui mord, un droit qui fait mal. Un droit qui, de temps en temps, qui fait qu'on paye une note. Donc, si vous voulez, la finance est une chose trop importante pour être laissée uniquement aux financiers ou aux économistes. Et il faut réintroduire dans la régulation financière des gens qui vont porter ce bien commun, je fais lien avec la conclusion de Gilles, qui malheureusement ne peuvent pas être que des États pour les raisons que j'ai dit, qui ne peuvent pas être que les États parce que les États ont des intérêts très particuliers et qui ne peuvent pas prétendre à incarner le tout. Ça ne peut pas être pas plus que les ONG d'ailleurs une instance qui va permettre à la fois de réunir tous ces gens-là et d'avoir une prise concrète sur les acteurs sous forme de sanctions, d'exclusion du marché, par exemple en matière de corruption, si vous voulez, il y a une règle très simple, hein, c'est de dire les gens qui sont prises, les entreprises qui sont prises les doigts dans le pot de confiture sont exclues d'un certain nombre de distributions, Union européenne, Banque mondiale, FMI. C'est absolument, absolument dissuasif.
Ouais. J'ai l'impression que pour la première mondialisation, on crée des institutions qui avaient plus de dents, si je puis dire. Je pense à Interpol, puisque vous parlez de corruption. Mais
aucune dent. Interpol, zéro dent.
Non,
bon. Zéro.
Okay. Mauvais exemple.
Gilles
Andréani, Est-ce qu'on peut faire des institutions qui ont des dents?
Oui, je pense qu'on doit pouvoir faire des institutions qui ont des dents, mais avant, je reviens, je ne suis pas obsédé par les États, hein, mais il faut, par convention, si vous voulez, dans la vie... Pardon ? Plus près du micro, déjà. En gros, la règle, si vous voulez, c'est qu'on fait une norme internationale et qu'on laisse la responsabilité de la mise en œuvre aux États. C'est très rare qu'il y ait des mécanismes de mise en œuvre qui soient aux mains des institutions internationales. Et ces systèmes de responsabilité en quelque sorte décentralisés, où il y a une norme internationale et des tribunaux, des collègues d'Antoine qui sur le plan national ensuite se saisissent de la norme internationale et font progresser les choses, bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt le modèle qui marche. Alors, il parle de corruption. Pourquoi ça marche? Ben parce que dans le cadre justement de ce que j'ose appeler un progrès, si vous voulez, il y a eu la convention de l'OCDE sur la corruption, qui a ensuite été transcrite dans les droits nationaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se saisir sur le plan national d'affaires de corruption, incriminer ces entreprises quand elles versent des pots de vin à des pays étrangers pour obtenir des marchés. C'est un progrès. Alors, naturellement, la mise en œuvre est très inégale. La qualité de mise en œuvre de la loi internationale est extrêmement inégale d'un pays à l'autre. Certains ont des mécanismes de défense, les Américains en ont, que n'ont pas d'autres. Il y a une inégalité de traitement, il y a tout ce qu'on veut. Mais en gros, c'est quand même le modèle. Et je voudrais revenir sur une chose, si je peux, qu'a dit.
Et après, on donnera la parole à la salle.
Je crois que ce qu'il dit de la régulation qui ne reflète pas de façon convenable les enjeux politiques et sociaux est traité au fond dans des boîtes noires. Il y a une certaine désinvestissement du politique par rapport à des régulations renvoyées dans un ordre, disons, expert. Hein. Et en faisant cela, il dit tout à fait ce que nous pensons tous, c'est-à-dire la démocratie n'aime pas trop les experts. Elle veut des débats ouverts, informés, où il y ait des valeurs, où ça se termine par un vote majoritaire, oui ou non. L'esprit démocratique n'aime pas cela et c'est normal. Mais disons, c'est aussi vrai des normes internes et des débats politiques internes que de la norme internationale. Et je crois que notre problème, quand on se réfère à une sorte d'idéal démocratique, si vous voulez, le débat devant la cité avec deux orateurs comme dans la Grèce antique qui se succèdent, on vote et on a la bonne position. Bon. C'est un idéal qui, de toute façon, ne correspond plus à la complexité et aux ramifications sociales et économiques des problèmes qu'on a à traiter. Alors, je prends juste un exemple. Sur ce modèle-là, on traite aujourd'hui la loi Hadopi. Moi, je ne connais rien au problème de propriété intellectuelle. Ça m'a l'air horriblement compliqué. La seule chose que je sais, c'est que la façon dont c'est traité aujourd'hui, c'est-à-dire sur le mode du débat démocratique binaire, la majorité, l'opposition, le bien, le mal, etc., me paraît qu'un reflet extrêmement imparfait de la complexité des problèmes. Et je me demande s'il n'y a pas aussi quelque chose à prendre de la façon dont on approche d'une meilleure solution sur le plan international, quelquefois sur le plan interne. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le cadre, par exemple, de l'Union européenne, non seulement il y a un certain degré de transparence, mais il y a une prise en compte de l'expertise dans le débat, une interaction organisée entre les groupes de pression, les experts, la commission, etc., avant l'étape purement politique, dont peut-être on ferait bien de s'inspirer plutôt que, si vous voulez, de s'invectiver et de trancher par une solution binaire en noir et blanc un problème qui m'a l'air d'une complexité telle que, bonne ou mauvaise, la loi Hadopi, en tout cas, ne la réglera pas, si vous voulez. Et donc, je crois que par rapport à notre idéal de démocratie majoritaire, fondée sur la confrontation de valeurs politiques, au sens le plus élevé du terme, eh bien, des processus décisionnels qui se font par consensus approché, où on intègre, si vous voulez, le point de vue des groupes d'intérêt et le débat expert, tous ces mécanismes, si vous voulez, de table ronde, de commission, etc., précédant le débat législatif symbolique de l'institution démocratique, je me demande si ça n'a pas du bon aussi, si vous voulez. Et je crois que le problème très juste que nous décrit Antoine, la démocratie nationale n'en est pas, si vous voulez, moins exempte que, n'en est pas plus exempte, excusez-moi, que les processus de décision internationaux.
Merci Gilles Andréani. Alors je vais donner la parole à la salle pour des questions. Ce que je vous demande, c'est d'éviter les déclarations, les grandes déclarations de principe, et de poser des questions courtes et percutantes.
Bon, je vais commencer effectivement par une certaine question sur des principes. Il me semble que l'on vit actuellement une grande indigence en matière de penser la liberté. Je prends un exemple. En 1985, les États-Unis ont refusé de signer un accord de stabilisation des prix concernant le café en particulier. Alors on pense beaucoup, on a beaucoup pensé à la privation de liberté d'une Mexicaine célèbre, et on n'a pas pensé à la privation de liberté des cultivateurs des collines de la Bolivie, qui, privés de débouchés, car il paraît que la Bolivie en a perdu pour 500 millions de dollars, à l'occasion de cette décision des États-Unis, est-ce qu'ils ont été libres de continuer leur culture et de faire valoir leur savoir-faire et d'en tirer des bénéfices? Non. D'où l'installation, le recours à la coca. Et encore, on avait proposé un recours à la coca comme produit nutritif. Mais non, le recours à la coca s'est transformé en fabrication de cocaïne. Et on a le même phénomène pour l'Afrique. Je prends un deuxième exemple.
Et votre question, s'il vous plaît.
Oui,
parce que là...
Oui, alors ma question, si vous voulez, parce que je pourrais donner d'autres exemples.
On a un bien commun qui est le temps, c'est-à-dire on a une demi-heure à passer ensemble.
On a aussi un bien commun qui est la liberté. Il y a deux formes.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Mais il y a deux formes de liberté. Il y a la liberté comme valeur et la liberté comme privilège. La liberté comme privilège, elle correspond à ce qu'on pourrait appeler un âge guerrier de l'humanité. C'est-à-dire que la valeur est confisquée. Se donner comme projet d'avoir une liberté pour tout le monde, de penser à la liberté comme une valeur, c'est-à-dire de considérer que la liberté de l'autre est aussi importante que ma propre liberté, c'est probablement une direction qui permettrait de modifier, selon ce que vous avez présenté, de faire pression, mais de faire pression à partir d'un changement d'état d'esprit.
Très bien. Derrière, une question? Une vraie question.
Essayez de faire vite, donc très intéressé par vos interventions, à savoir la gouvernance économique, la gouvernance politique. Mais ce que j'aurais aimé, c'est que M. Antoine Garapon, étant magistrat, nous parle un petit peu, bon, je ne sais pas maintenant au niveau du temps, puisqu'on est tout le monde est pressé, à savoir nous parler de la gouvernance juridique, donc l'instauration donc des instances actuelles au niveau international concernant la justice.
Vous allez répondre rapidement.
Rapidement, parce que c'est, si vous voulez, je me suis concentré sur la question financière. On assiste aujourd'hui à une explosion de juridictions internationales. Le problème de ces juridictions, c'est que c'est une immense avancée. Et en même temps, il n'y a pas, si on voit la Cour pénale internationale, si vous voulez, c'est vraiment, pour les internationalistes, pour les juristes, c'est un pas de géant d'avoir une cour permanente pour juger les chefs d'État ou les gens qui ont commis des crimes majeurs, mais elle a du mal à trouver des justiciables. Alors, la tension actuelle, c'est que il est plus facile de créer une institution internationale sur le papier, mais après, c'est compliqué de la faire marcher. Et ce qu'on voit, c'est qu'à côté de ça, des tas de normes se mettent en place. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a une multiplication des juridictions internationales. Il y a aussi quelque chose de très intéressant qui se passe au niveau de l'OMC, ce qui est un peu une manière de répondre à la première question, c'est-à-dire qu'il y a une judiciarisation actuellement de l'OMC avec les comités d'experts, les panels qui jouent en appel. Donc on est dans un processus de judiciarisation qui est encore timide, mais qui est une vraie nouveauté.
Merci. Philippe Frémaux.
Merci. Donc, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas faire le coup de vous n'avez pas parlé d'eux. Néanmoins, il y a une institution internationale dont vous n'avez pas parlé, qui est discrète, mais qui en matière de finance joue un rôle, qui est la BRI. Et c'est vrai qu'une des propositions du G20 est de renforcer, c'était le forum de stabilité financière. Bon, donc c'est juste pour savoir si vous pensez que ça n'a aucune influence ou si ça pourrait jouer un rôle. Et puis, j'avais une autre remarque qui est que, bon, on a eu l'opposition classique entre le réaliste et puis la tendance plus Rosneau sur l'affaiblissement du pouvoir des États. Mais tous les deux, en fait, il y en a un qui pense que les États ont le pouvoir et l'autre qui regrette qu'il ne l'ait plus. C'est plutôt un peu l'impression que j'ai eue. Antoine a dit malheureusement à un moment. Bon. Et c'est vrai que, d'un certain point de vue, dès lors qu'on parle de la chose économique, le propre de l'économie depuis toujours, y compris dans l'espace national, en tout cas depuis que le capitalisme et le libéralisme ont émergé, c'est qu'il y a une société civile qui est autonome à l'égard du pouvoir de l'État. Et c'est vrai que le décalage entre l'espace du politique et l'espace de l'économie fait que le rapport de force a changé en faveur des forces du marché de manière évidente. Alors, à la fois, on peut le regretter d'un certain point de vue parce qu'on sait bien que le marché a toujours besoin d'être régulé et encastré dans la société, mais dans le même temps, d'un certain point de vue, il n'y a rien que de très normal qu'effectivement l'espace de l'économique ne soit pas comme l'espace de la violence. Il n'y a pas un monopole du droit de commercer légitime qui appartient à l'État, et Dieu merci. C'est-à-dire, d'un certain point de vue, même dans le des intérêts du débat d'hier, puisque Antoine a bien voulu dire qu'il était intéressant, c'est qu'il y avait à la fois l'intervention d'Orléans, mais il y avait aussi l'intervention de Fontaine qui expliquait en quoi le marché était aussi porteur de liberté et de démocratie. Donc c'est le trop de marché qui nous préoccupe. Et de ce point de vue-là, je terminerai là-dessus, pour ne pas me faire gronder par Pascal, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a jamais été cité dans votre intervention, qui était le mot « société civile internationale », ou dit en langage plus courant, mouvement altermondialiste, forums sociaux, etc. Toute chose...
Gilles a dit qu'il n'y avait pas de démos international.
Oui, Gilles a dit qu'il n'y avait pas de démos, je l'ai bien entendu. Mais c'est vrai que, d'un certain point de vue, ce mouvement, aujourd'hui, paraît affaibli, peut-être parce qu'il y a eu un retour de l'État, et qui ne date pas de la crise, qui date au fond de la montée du pouvoir des émergents, qui fait que la société internationale s'est reconstituée comme une société d'État où les États discutent directement entre eux et où les organisations internationales économiques qui semblaient avoir beaucoup de pouvoir ont vu leur étoile sérieusement pâlir. Comme le mouvement altermondialiste s'était quand même constitué largement contre les organisations internationales économiques, d'un certain point de vue, il a perdu un peu de sa raison d'être dès lors que c'est les États qui reprennent le jeu en main. Mais maintenant, je ne pense pas pour autant que ce besoin, effectivement, de la construction patiente et petite brique par petite brique d'un démos international et de la formulation par la société elle-même d'un intérêt général commun de l'humanité soit devenu moins nécessaire. Alors, je ne sais pas quelles sont les pistes et quels les espoirs que vous pouvez nous donner.
Alors, Gilles.
Alors, c'est beaucoup de questions, mais je vais essayer d'aller vite en les prenant en sens inverse parce que j'ai une mauvaise mémoire. Alors, sur la société civile internationale, c'est une lacune tout à fait, mais moi je pense que ça participe simplement du progrès en général de la démocratisation de la société internationale au sens de la transparence et de l'ouverture du débat. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une société civile, quel que soit le terme, en voie de constitution, mais en revanche, je pense qu'il est sain, qu'il y ait accès au débat international, disons des groupes d'intérêt. Et en fait, dans la société civile internationale, altermondialistes, représentants des intérêts économiques, ONG, etc., vous pouvez en gros les qualifier de groupes d'intérêt par opposition à ce que serait justement un démos, c'est-à-dire une collectivité porteuse d'un intérêt général, d'une unité identitaire, etc., ce qui, à l'évidence, n'existe pas sur le plan mondial. Donc ça, je pense que c'est très bien, si vous voulez.
Donc c'est une société civile au sens tocquevillien, en fait.
Moi, je ne crois pas, si vous voulez. Mais on peut d'abord, le mot de société civile, on ne sait pas bien ce que ça veut dire, je ne suis pas assez philosophe pour le dire, mais je ne crois pas que ce soit une société civile en voie de constitution. Je crois que c'est des interactions heureuses avec des segments de société civile, soit nationale, soit transnationale, mais en gros, on n'a pas une société civile.
Bon. Voilà.
D'accord. Enfin, disons, en tout cas, c'est plutôt une bonne chose, et je suis tout à fait d'accord sur le retour des États. Mais le retour des États, si vous voulez, il est inscrit dans la conception libérale du marché dès lors que vous acceptez que la conception libérale du marché, c'est que le marché, c'est la meilleure forme d'allocation des ressources jusqu'au point où il ne fonctionne plus et où il y a soit lacune du marché, soit défaut d'information, soit impossibilité de coter, soit ceci, soit cela. On est exactement dans ce moment et les États reviennent. Ils achètent les banques, ils cotent les valeurs à leur place, etc. Bon, j'exagère un peu, mais et c'est tout à fait normal. Bon, et dans ce contexte, c'est évident qu'on va revenir sur la crise et la BRI, le comité de Bâle, va essayer de mettre au point des normes, si vous voulez, capables de capturer ce qui d'ailleurs était le produit non pas tellement de l'imperfection des normes précédentes, mais la duplicité, l'inventivité des marchés qui ont construit des systèmes financiers gris à côté des normes bancaires de façon à échapper à leurs contraintes. En gros, c'est ça qui s'est passé. L'exemple bancaire renvoie, me semble-t-il, à la considération sur les normes à l'intérieur et à l'international. L'immense faillite, c'est d'abord celle des régulateurs nationaux et pas simplement des régulateurs américains, parce que les produits structurés, les crédits défaut de swaps, tous ces trucs qui ont empoisonné le système bancaire, on les trouvait dans les banques européennes aussi bien que dans les banques américaines, même si le contournement des règles existantes a été beaucoup plus sauvage et beaucoup plus massif aux États-Unis qu'en Europe. Et je trouve qu'au lieu d'incriminer la gouvernance mondiale et le comité de Bâle, on ferait bien de demander un peu des comptes à la commission bancaire, à la Banque de France, etc., pour se demander comment ils ont surveillé leurs banques. Et naturellement, au président et au directeur des banques en question, qui apparemment ne savaient pas ce qui se passait chez eux. Et je pense qu'il faut commencer au plus près, si vous voulez, avant de monter à ces niveaux-là. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais c'est les quelques commentaires qu'elle m'inspire. Et en gros, je suis d'accord avec ce que vous avez dit.
Une dame là devant. Excusez-moi, messieurs.
Oui, bonjour. En fait, moi, je voulais revenir sur le fait que quand on prend l'OMC, quand on prend le FMI, quand on prend toutes ces organisations, c'est toujours les mêmes pays. C'est les pays de l'OCDE et les pays du Sud. Ils n'ont pas le choix. Quand on voit le FMI, ce qu'il a fait dans certains pays africains ou dans certains pays d'Amérique latine qui imposent des règles du libéralisme que eux-mêmes n'arrivent pas à faire, par exemple, par rapport aux politiques agricoles. Quand on voit que le FMI dit « Non, vous ne pouvez pas aider vos agriculteurs », alors que le premier pays à aider ses agriculteurs, c'est les États-Unis, que l'OMC n'arrive pas à faire le problème de Doha. Est-ce que aussi dans le problème de gouvernance mondiale et gouvernance démocratique, ça ne va que dans un sens, ça ne va que pour certains pays et que les autres, on ne les laisse pas, comme pour le G20 où il y a des zones géographiques. Enfin, pour le G20, on dit que ça représente le monde, il n'y a pas un pays du Maghreb, où il n'y a qu'un pays de l'OPEP. Donc est-ce que ce n'est pas aussi ça le problème dans le problème de gouvernance mondiale et démocratie mondiale?
Oui, vous avez raison, mais il faut, je serai plus pragmatique. Dans le sens, d'abord, il ne faut pas caricaturer. Les États-Unis sont très souvent condamnés à l'OMC. L'OMC n'est pas une institution à la main des États-Unis. La question, elle est plutôt stratégique. On est dans un mouvement de transformation radicale de notre monde. Donc, les règles sont imparfaites et vous le soulignez à juste titre. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'une dénonciation externe sous le prétexte de rêver un gouvernement mondial dans un monde idéal est plus efficace que d'investir des instances très imparfaites, des institutions qui sont bancales, mais qui contiennent, organisent et rationalisent cette évolution. Voilà. Je pense que c'est la vraie question, c'est une question politique quasiment stratégique. Un mot sur ce que disait Philippe pour répondre. Moi, je ne suis pas... Je ne veux pas donner l'impression... Il me semble que les... Comment dirais-je? Si la mondialisation... Je ferai une distinction entre les sociétés civiles et le pouvoir des clercs et des financiers. C'est qu'actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un pouvoir des clercs et des financiers, qui sont les business lawyers et la finance, et que je distinguerai de la société civile. Ce que je constate aussi, c'est qu'avec certains États libéraux, il y a une évolution très importante, ces États travaillant de plus en plus avec la société civile. Les négociations du traité de Rome, un certain nombre de différents internationaux sont faits où les diplomates côtoient des militaires, côtoient des ONG, côtoient des gens de la société civile et travaillent véritablement ensemble. Alors, ce qui est important, c'est de trouver des instances qui vont permettre à la fois de relayer les intérêts de la société civile et en même temps de la constituer. Il me semble qu'aujourd'hui, la politisation de la consommation, par exemple, est quelque chose de très très important. Savoir que les consommateurs prennent conscience qu'à travers l'acte d'achat, ils ont, s'ils savent s'organiser, la capacité de menacer des grandes entreprises en affectant leur réputation, etc., etc., et avoir effectivement un pouvoir de transaction, ça me semble quelque chose de très intéressant.
Sur la question de l'OMC, je vous rappelle qu'il y a une table ronde qui risque d'être très intéressante cet après-midi à 16h30. Avec comme invité Pascal Lamy et Suzanne Georges. Ça fera des étincelles. Alors, comme il reste 10 minutes, on va prendre 3 questions, comme ça on gagnera un petit peu de temps. Vous savez, il y a énormément de bras qui se lèvent, c'est une forêt. C'est bon, c'est... Alors, monsieur là-bas.
Oui, Bernard Soula, je suis vice-président de la région, mais je voudrais m'exprimer là. J'ai la chance d'être un petit peu au Parlement européen en ce moment, en tant que député européen, et je voudrais faire 3 observations. La première, mais Gilles-André Anime reviendra peut-être, il a eu une phrase assez étonnante tout à l'heure, il a dit le représentant du bien commun en Europe, c'est la Commission. Ça prouve peut-être à quel point d'ailleurs la perception de ce qu'est la machine européenne est extrêmement étonnante, parce que la Commission n'a aucun pouvoir de représenter le bien commun, c'est à la limite le Conseil ou le Parlement. Mais c'est un vrai problème que vous avez soulevé là. Deuxième question, alors c'est là aussi sur votre... un peu votre désespoir de la gouvernance mondiale. Moi, je voudrais quand même qu'on soit plus positif là-dessus. Et on vient d'évoquer la question des chefs et des administrateurs des grandes institutions. On vient d'évoquer la question de la société civile à travers ce que dit Philippe Frémaux. Moi, je crois qu'il y a, et nous sommes nombreux à le porter à travers les sommets mondiaux, à travers le Forum progressiste mondial, l'hypothèse que vous avez un peu balayée d'une main d'un Conseil de sécurité économique et sociale, dont nous avons proposé, nous sommes nombreux à l'avoir proposé, qu'il ait d'abord une première fonction, celle de précisément nommer, à pointer, comme on dit en francisant, les administrateurs de l'OMC, du FMI, en dehors de l'influence des grands pays. Et ça, c'est une proposition tout à fait possible. Et moi, je plaide avec beaucoup, y compris les altermondialistes, pour qu'on porte ça. Parce que c'est fondamental. Il faut arriver à introduire une autre hiérarchie des normes. Si on continue d'avoir le commerce, qui est la seule règle, qui est plutôt bien organisée, et Antoine avait raison à l'instant, mais qui n'a pas son alter ego ailleurs, s'il n'y a pas un lieu où on arbitre en disant, au nom de l'environnement, cette règle sociale ou cette règle environnementale n'est pas, cette règle commerciale n'est pas acceptable, c'est ça le fond, à mon sens, véritablement le fond du problème. Et puis enfin, troisième remarque, parce que vous l'avez peu évoqué, c'est la question, parce que d'une certaine façon, on pense que la gouvernance mondiale ne peut venir que d'une bonne volonté. Nous avons écrit récemment avec Pierre Auzan-Vallon et quelques autres un article sur les paradis fiscaux. Parce que la réalité, c'est que la coopération en matière de paradis fiscaux, elle peut aussi venir de l'intérêt des États. Si chacun prend en compte son intérêt spécifique, il a plutôt intérêt à supprimer les paradis fiscaux. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que ses copains d'à côté ne le font pas et qu'il craint d'être balayé par la concurrence fiscale. Mais si on arrive à montrer que la coopération est de l'intérêt, pas simplement de la morale,
mais de l'intérêt. Les Américains aujourd'hui, face aux narcos, face à tout, face au problème du terrorisme, ils ont plutôt intérêt à attaquer les paradis fiscaux. Sauf que personne ne rentre dans une logique coopérative parce que personne ne comprend que son intérêt est là. Moi, je crois qu'il faut aussi mettre ça en avant. Il y a une voie de la gouvernance mondiale qui est qu'au total, c'est un jeu à somme positive pour tout le monde et pas simplement fondé sur la morale. Et que ça aussi, c'est un élément fort, notamment cette affaire des paradis fiscaux peut le montrer.
Merci. Monsieur. Très court, s'il vous plaît, parce que sinon, vous n'aurez pas les réponses.
Oui, ça sera vite. De toute façon, en partie, vous avez répondu tout à l'heure. Mais simplement, je voudrais simplement dire que il y a possibilité, à l'heure actuelle, de modifier les rapports de force en l'ONU si l'Europe s'y engage à le faire. Et elle en a les moyens, à condition qu'elle évolue un peu. Ça veut dire simplement que, n'étant prisonniers du système libéral, nous pouvons, en prenant l'expérience, puisque de l'action qu'ils font, la Chine, par exemple, de la Russie, hein, en prenant l'expérience et puis les motivations qu'ils ont, on doit pouvoir, avec la pensée européenne, modifier les rapports de force de façon à ce qu'on ait une meilleure gouvernance mondiale.
Merci. Monsieur. Très rapide aussi.
L'intérêt national passe-t-il par l'intérêt mondial ?
L'intérêt national passe-t-il par l'intérêt mondial ? Ce qui rejoint un petit peu cette question. Alors allons-y, répondons à ces différentes questions sur l'Europe, sur l'intérêt national, sur les stratégies coopératives.
Alors, pour préfacer ça, juste en réponse à M. Frémont, les États ne sont pas les maîtres du jeu. Ils croient qu'ils sont aux commandes, ils ne sont pas aux commandes. Mais ils peuvent bloquer le système. Et ce qui est extrêmement, si vous voulez, ce qui est très frappant, c'est à la fois la schizophrénie et la duplicité des États. Ils sont schizophrènes parce qu'ils doivent se penser dans la gouvernance mondiale, à la fois, et je réponds à votre question, monsieur, à la fois comme porteurs d'un certain intérêt mondial, comme citoyens de la société internationale, et comme défenseurs de leurs intérêts. Bon, ils doivent se dédoubler, si vous voulez. Bon, et le fait est qu'il faut les obliger à le faire. Je crois qu'il faut les emmener dans des processus où ils sont obligés de le faire. Et c'est là où monsieur Soula a raison. C'est choquant de dire que la Commission est dépositaire du bien commun. Mais si vous mettez 27 États dans une salle sans aucun arbitre, sans aucun maître du jeu, et que vous leur dites « trouvez-moi le bon quota de poissons », c'est clair qu'ils ne vont pas sortir avec un optimum collectif. Et dans le système européen, la Commission, avec son monopole de l'initiative, elle met la proposition sur la table, elle incarne un certain bien. Alors c'est un bien pas satisfaisant du point de vue démocratique, c'est un bien expert, si vous voulez, un bien commun expert. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il faut quand même être un peu expert, si vous voulez. Il faut quand même prendre des données extrêmement complexes et essayer d'arriver à des formes de consensus, de compromis. Et encore une fois, je crois qu'il y a là une petite leçon pour la démocratie nationale, c'est qu'entre la démocratie majoritaire et le consensus, la solution experte qu'on approche, ben, il faut trouver des voies moyennes, voilà, et dans un monde devenu quand même beaucoup trop compliqué pour les formes traditionnelles de démocratie. Un dernier point, je ne peux qu'être d'accord avec l'intervenante précédente quand elle met le doigt sur le problème fondamental de l'inégalité et de la légitimité imparfaite de toute espèce de gouvernance mondiale dans un contexte d'inégalité très profonde des situations et de l'influence des États. C'est une des plaies majeures, si vous voulez, du système de gouvernance internationale. Là encore, tout est dans la dynamique. Est-ce qu'il y a des progrès ? Est-ce que des pays dont on n'entendait pas la voix se font plus entendre aujourd'hui ? La réponse est marginalement plutôt oui. Donc on va plutôt dans le sens d'une réduction de ces inégalités d'influence et de participation. Mais évidemment, c'est très long et très imparfait.
Merci. Antoine ?
Oui, non, sur un mot, je suis absolument d'accord, c'est dit Bernard Soulage sur l'Europe. Je pense qu'il y a l'Europe est forte, quand, et notamment on l'a vu à propos de l'OMC, quand elle parle d'une seule voix. C'est-à-dire que les 27 avaient un représentant qui négociait. Alors, tout à fait d'accord aussi pour dire que la bonne volonté, c'est pas une question de bonne volonté, c'est pas une question de morale, c'est une question aussi et avant tout d'intérêt. Peut-être, espérons-le, que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une prise de conscience qu'il y avait un plus grand intérêt à une régulation avec ses inconvénients, avec éventuellement son coefficient réducteur de l'efficience économique, mais une plus grande stabilité du système. Aujourd'hui, alors que ça soit par un conseil de sécurité économique, je ne suis pas sûr que l'interétatique, quand on voit comment fonctionne l'exemple du Conseil des droits de l'homme ou le Conseil de sécurité, je n'ai pas l'impression que c'est toujours une grande dévotion au bien commun, personnellement. Mais quelle qu'en soit la forme, je crois qu'effectivement aujourd'hui, j'espère qu'il y aura une prise de conscience qui fera que on aura plus intérêt à une organisation et à une rationalisation plutôt qu'à ce rapport de force.
On a le temps pour une dernière question, monsieur.
Oui, moi je voulais soulever un problème. Vous savez, il y a un livre qui est paru de Sophie Coignard, Un État dans l'État, en parlant de la franc-maçonnerie.
Aïe.
Bon, je veux venir là au pouvoir occulte qui, en gros, on parle pour la France quand on dit un État dans l'État, mais elle aurait plutôt dû écrire un État dans les États. Et aujourd'hui, tout est le problème de savoir, quel est le pouvoir de la franc-maçonnerie et des intérêts financiers internationaux, parce que c'est à peu près souvent les mêmes personnes, quand on parle d'affairisme, de démocratie, de manipulation,
d'accord,
de dilution.
On a compris la question, je pense.
Voilà, quels sont les risques de ces pouvoirs pour la démocratie ?
Je précisais ça parce que ce qui est intéressant, si vous voulez, dans le monde de la finance, moi je ne suis pas économiste, mais je trouve que c'est un monde très rationnel. C'est un monde très rationnel, très organisé. Quand je dis absence, opacité, je ne veux pas du tout dire, c'est pas pour moi une pensée du complot où il y aurait un complot international, les gnomes de Zurich ou le consensus de Washington, la tricontinentale, etc. qui revient. Non, je crois qu'au contraire, quoi.
Le groupe Bilderberg.
C'est ça. Ça revient régulièrement. Non, il faut prendre la réalité de la finance pour ce qu'elle est. Au contraire, pour un monde très rationnel et qui s'organise selon une rationalité qui est une rationalité instrumentale et qui ne prend pas en compte la dimension politique, c'est-à-dire cette dimension délibérative, etc. Donc c'est une erreur. Il ne faut surtout pas commettre l'erreur de la pensée du complot ou de l'irrationalité économique.
Très bien, je vous remercie à tous les deux et puis je vous souhaite une très bonne journée.